RCF.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour ou bonsoir, vous êtes avec les Neveux de René, Chemin de Pensée, une émission pour découvrir les textes de la philosophie. Alors, vous êtes avec Nazim Fattès, Anne Bonneau, Sylvain Contasso, Vivier et Nicolas Lemoine. Alors, nous continuons à découvrir le Gorgias de Platon et la méthode de Socrate, la méthode, ou plutôt son approche de la philosophie qu'on a nommée dialectique. Et notre but sera de consacrer encore deux émissions au Gorgias de Platon et de voir en quoi c'est un texte éminemment philosophique. Alors le texte se présente du premier abord comme quelque chose qui combat la rhétorique, mais ensemble nous allons voir en quoi tous les paradoxes que recèle ce texte nous permettent de découvrir aussi la philosophie. Alors nous allons donner la parole à Nicolas Lemoine qui va nous résumer les épisodes précédents.
L'épisode précédent de manière très rapide. Donc la semaine dernière, nous étions interrogés sur le dialogue, donc sur le fait que c'était quelque chose de nécessaire pour trouver la vérité qui se situait à la rencontre de deux pensées, de deux êtres qui comparaient leurs discours et qui, d'une certaine façon, se confirmaient ou s'infirmaient mutuellement par cette rencontre ce qu'ils pensaient. Et donc par deux êtres cherchant sincèrement la vérité, évidemment. Ce ne sont pas des paroles creuses, ce ne sont pas des paroles d'avocat, ce sont des paroles de gens qui cherchent la vérité. Et puis ensuite, nous avions relativisé en quelque sorte le dialogue tel que nous l'avons sous nos yeux, en se rappelant que évidemment c'est un texte construit par Platon, et donc c'était aussi une manière de présenter une réflexion philosophique, hein, puisque le dialogue du Gorgias, ce n'est pas une retranscription d'un dialogue tel qu'il a réellement eu lieu, c'est une présentation d'idées philosophiques par Platon, qui met en scène donc son maître Socrate. Alors, peut-être pour faire la transition avec la séance d'aujourd'hui, on peut peut-être insister sur une dernière chose très importante pour un dialogue, qui est la question du langage et des mots utilisés et de la précision de ces mots.
Alors, moi j'aime bien dire, par exemple, que la philosophie est aussi précise que les mathématiques. Alors c'est quelque chose qui souvent surprend les personnes à qui je dis ça, mais c'est peut-être comme ça qu'il faut entendre une partie du travail de Platon, et une partie seulement. Lorsqu'il dit que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, ça veut dire il ne s'agit pas de mettre la philosophie sous la coupe des mathématiques, c'est pas ça dont il s'agit, c'est de dire nous devons nous inspirer de ce que font les mathématiques dans leur rigueur et être aussi rigoureuses que possible. Et Nicolas, ce que tu disais, c'est que ça apparaît aussi dans le texte du Gorgias.
Nous en reparlerons tout à l'heure, oui. Alors nous allons lire un petit extrait qui permettra à la fois de rappeler quelle sera la thèse principale de la deuxième partie du Gorgias, donc qui comprend l'échange entre Socrate et Polos, et qui illustrera ce point. Ainsi, les orateurs de qualité te paraissent être mal considérés dans leur cité? On les prend pour des flatteurs?
Est-ce une question que tu me poses, ou le début d'un discours?
Je te pose une question.
Eh bien, je crois qu'ils sont considérés ni de cette façon, ni d'une autre.
Comment cela? Pas la moindre considération? Les orateurs ne sont-ils pas tout puissants dans leur cité?
Nullement. Si tu appelles puissance une chose qui soit un bien pour celui qui la possède.
Mais bien sûr que je parle de cette puissance-là.
Eh bien, à mon avis, les rhéteurs sont les moins puissants des citoyens.
Alors, donc, ce qui m'a marqué dans ce texte, c'est le glissement qui s'opère malgré Polos, qui mélange un petit peu tout. Alors il commence par dire, les orateurs sont... On a beaucoup de considération pour les rhéteurs dans la cité, c'est eux qui mènent la danse. Et Socrate répond non, sans rien montrer évidemment. Et puis ensuite, Polos, par un glissement qu'il effectue lui-même, dit « Mais si, ils sont tout-puissants ». Alors évidemment, être considéré et être tout-puissant, pour Paulos, c'est peut-être des choses qui sont confondues, mais en fait, pas nécessairement. Et en plus, avec la définition que pose ensuite Socrate, parce que là, il pose une définition, on commence à se donner moyen de discuter de façon précise, il dit « La puissance, doit être, c'est quelque chose qui doit être un bien pour son possesseur. »
Oui, assurément. Mais en quoi ce n'est pas un bien ? En quoi ce n'est pas un bien, puisqu'il dit « Je peux faire périr qui je veux, spolier, exilier, celui qui me plaît. »
Ah bien, une fois qu'on a posé cette définition, on peut ensuite juger une opinion et savoir distinguer si elle est vraie ou fausse. Tant qu'on n'a pas posé une définition précise,
oui,
on parle dans le vide. Parce qu'effectivement, c'est ce que va faire Paulos, il va donner quantité d'exemples. Mais Socrate, qui va rester ferme sur sa définition, va dire bah, « ça ne me réfute en aucun cas ». Puisque ce que tu me dis, bah, je l'interprète avec mon opinion et je juge que j'ai toujours raison. Et on apprécie la même. Tu me racontes ton histoire, très bien. Toi, tu déduis que donc il vaut mieux pouvoir faire ce que l'on veut, y compris les choses les plus abjectes, et ainsi être tout puissant et être considéré. Et moi, je te dis que ces gens-là sont malheureux.
L'équivalent de nos jours, ce serait quelqu'un qui dirait bah, moi, le fait d'aller dans un centre commercial et de pouvoir acheter ce que je veux, je considère ça comme un bien. On aurait extrêmement de mal à expliquer à cette personne que cette possibilité n'est pas en elle-même un bien.
Mais peu importe pour l'instant qui a raison ou qui a tort. Le point important, à mon sens, c'est qu'on a posé une définition précise de ce qu'est la puissance, de ce qu'est être puissant.
Oui.
Hein, et puissant, quelqu'un qui agit pour son bien. Et à partir de là, on peut réfuter ou pas telle ou telle opinion.
Alors Anne, je pense que ce genre de choses, toi tu disais que ça te gênait quelque part parce que tu avais l'impression que Socrate faisait comme un piège, comme une araignée qui tisserait une toile.
Oui, c'est sa méthode d'agir, quoi. Il agit toujours par petites touches, et il fait un certain nombre de remarques qui au début semblent un peu anodines, un peu sans intérêt, et au fur et à mesure il construit son raisonnement. Et donc ça apparaît toujours, on a toujours l'impression qu'il y a un paradoxe, là, comme vient de le dire Nicolas, hein, le paradoxe du puissant qui ne serait pas puissant, mais qui en fait est parfaitement logique par rapport au raisonnement et par rapport à tous les présupposés de Socrate. Donc, une des choses aussi qu'il aime faire, c'est mettre en parallèle les choses. Hein, nul n'entre ici, s'il n'est géomètre. C'est regarder si les choses sont différentes, sont ressemblantes, etc.
Et on peut peut-être donner des exemples. Par exemple, la rhétorique, il la compare à la cuisine. On avait dit ça,
oui,
hein,
oui,
par exemple.
Oui. C'est une des formes de la flatterie.
C'est une des formes de la flatterie, c'est-à-dire la rhétorique, c'est analogue à la cuisine, de la même façon qu'on disait quoi, rappelez-moi, la gymnastique, elle s'occupe bien du corps.
Il y a l'esthétique qui est la flatterie de la gymnastique, non, c'est pas ça ?
Quelque chose comme ça, oui.
Alors Nicolas, peut-être toi qui es le maître des analogies, tu peux nous rappeler un peu les raisonnements mathématiques qui sont quasi-mathématiques ou logiques qui sont donnés par...
La toilette et la gymnastique.
Oui,
oui. Et l'esthétique aussi, je crois.
Oui, oui, c'est ça. La toilette, c'est quelque chose qui fait paraître les gens beaux alors qu'ils ne sont pas nécessairement
en bonne santé.
En bonne santé, alors que la gymnastique, c'est véritablement le soin du corps. Et donc, ce que dit Platon, c'est que ces choses-là nous paraissent évidentes, puisqu'on les voit et chacun a envie de bien s'occuper de son corps. Mais il ne dit pas qu'il ne faut pas s'occuper du corps, il dit qu'il faudrait faire le même travail et avoir le même soin pour ce qui concerne l'âme. Hein, c'est comme ça qu'on est d'accord.
Et pour compléter ce qui était dit tout à l'heure, ce qui va être important justement et ce qui est fait un peu plus loin dans le texte, hein, dans le dialogue, c'est vraiment la distinction entre la liberté d'action et le choix de l'action, en fait. Et c'est ça qui fait toute la différence.
Alors,
c'est pas parce que tu peux faire une action que cette action que tu fais va t'apporter un bien, en fait.
C'est ce que dit Socrate, effectivement. Donc, il va ensuite, une fois qu'il a bien défini les termes, il va poser clairement son opinion, qui sera ensuite soit réfutée si elle est réfutable, soit montrée avec, effectivement, une précision toute mathématique. Donc, ce qu'il dit, c'est la chose suivante. Les rhéteurs et les tyrans ne font pas ce qu'ils veulent, mais ce qui leur paraît être le meilleur. C'est-à-dire, ils font ce qui leur plaît, mais ce faisant, ils ne font pas ce qu'ils veulent, dans le sens où vouloir, c'est aller vers un bien.
Mais pourquoi vouloir serait-il nécessairement aller vers un bien ?
C'est la définition que pose Socrate.
Oui.
Il y a un arbitraire de définition.
Il y a l'arbitraire.
Et c'est ça aussi qui crée le paradoxe.
Oui.
C'est qu'à partir du moment où on utilise un langage philosophique qui reprend des mots du langage courant, mais en leur donnant un sens précis, celui qui n'a pas accepté cette définition et qui superpose à ce signifiant des signifiés qui ont été exclus par la définition précise, peut faire des faux sens à cause de cela.
Et donc, si j'entends bien ce que tu dis, Nicolas, c'est-à-dire que, pour le coup, là, on est un peu en train de s'écarter de la définition usuelle de philosophie comme amour de la sagesse, comme bien agir et ainsi de suite, puisque tu dis c'est d'abord être dans un grand degré de précision sur les mots qu'on s'emploie, et c'est pas quelque chose, une version New Age, on va dire, du bien-être, la philosophie. C'est quelque chose de radicalement différent, c'est ça, oui. D'accord.
Et alors, donc, une fois qu'il a distingué le bon plaisir du vouloir, eh bien, il va donner l'exemple de gens qui, étant privés de leur bon sens, vont commettre leur bon plaisir, des actes selon leur bon plaisir, et se nuire à eux-mêmes. Par exemple, il prendra l'exemple d'un serial killer.
Je t'interromps par rapport au bon sens. C'est pas qu'ils sont privés de bon sens, c'est qu'ils sont privés de raison. Et c'est important, hein, la différence. Hein. C'est vraiment qu'ils ne font pas le raisonnement pour les amener à la vérité. Ouais. Et du coup, leur jugement peut être faux. Et c'est pour ça que, du coup, ils vont faire des choses en pensant qu'elles sont bien pour eux, mais en fait, elles ne vont pas être bien pour eux.
C'est peut-être une question de traduction.
Oui, parce que nous, on a qui ne sont pas des hommes sensés. Nous, on a des traductions qui ne sont pas des hommes sensés.
Donc, ouais. Nicolas et Anne travaillent sur la version de Garnier-Flammarion. Sylvain et moi travaillons sur la version des Belles Lettres. Et on voit aussi que, connaître le grec, finalement, est bon, puisque on voit que, on l'a vu hein, dans les épisodes précédents, qu'un même mot, le mot techné, pouvait être traduit par art ou par technique, et selon les cas, il fallait être très attentif. Et là, on voit un autre problème qui est celui de la raison et du bon sens. Alors, il faudrait voir, raison, c'est un mot donc, qui vient du latin ratio. Les Grecs utilisent le mot logos hein, pour ça. Et alors, ce serait intéressant de se plonger un peu plus près de ce texte et voir comment est rendu ce mot de raison, de bon sens. Mais on voit qu'ici, effectivement, il y a une identification entre la raison et le logos, dans le sens où je dois discuter, prendre mon temps pour éclaircir les choses. Il faut que je prenne un jour, deux jours, trois jours de discuter, ben je vais devoir le faire. D'où aussi la nécessité d'avoir le temps hein, pour discuter. Alors, je vous propose qu'on prenne le temps, justement, d'une petite respiration musicale avec Handel, Lascia Chiopianga.
CF Lorraine Nancy, votre radio locale.
Oui, alors donc nous regardions de près la traduction du Gorgias et nous avons vu l'importance des mots techniques, l'importance des mots raison, l'importance du mot logos, l'importance du mot doxa. Donc on a vu que le travail socratique consiste à aller au-delà de la doxa, c'est-à-dire ce qui me paraît meilleur n'est pas ce qui est nécessairement meilleur, et la personne qui me parle, en général, m'impressionne en me disant « mais si tu fais comme moi, Si tu te ranges de mon côté, tu auras la puissance. Et ce que nous étions en train de dire, c'est que Socrate dit non, il n'y a de puissance que dans la mesure où on veut un bien, où on sait où est le bien, et dans la mesure où on sait comment accéder à ce bien. Mais reste la question de dire, finalement, tout ça, ça a l'air d'être un peu du pipeau, je veux dire, ça a l'air d'être naïf, flou. Quand on lit Platon, à la fois, on sent qu'il y a quelque chose de profond, on sent qu'il y a quelque chose qui va être bon pour l'exercice de la cité, et on a du mal à y croire. Du moins, c'est ce que tu semblais dire, Anne, qu'il y a un côté arnaque en tourloupe dans tout ça.
Non, non, l'arnaque, c'était plutôt par rapport à la philosophie, ma bien-aimée, qu'on lira tout à l'heure.
Eh bien, lisons-le maintenant, lisons-le maintenant. Alors ouais. Justement, oui, Nicolas, oui.
On va peut-être reprendre là où on s'était arrêté.
D'accord, vous voulez procéder par ordre,
par ordre et méthode. Ce serait pas mal, surtout d'accord. Si alors, aujourd'hui on insiste sur l'aspect mathématique ou rigoureux de la philosophie.
Avant d'aller donc, de dire pourquoi Socrate dit, mais c'est tout à fait lié à ce qu'on va dire plus tard, pourquoi Socrate dit que la philosophie, c'est sa bien-aimée. Essayons de voir comment lui procède par raisonnement rigoureux pour montrer quelque chose qui paraît paradoxal. Alors, le plus grand des paradoxes qui sera dans le Gorgias, c'est que commettre l'injustice est pire que la subir. Hein. Donc ça heurte moi-même. Oui.
Peut-être que le plus grand des paradoxes, c'est de dire si tu veux faire du mal à ton ennemi, le pire que tu peux lui faire, c'est de ne pas le punir.
Exactement. Puisque une des conséquences de ça, puisque le bien et justice sont identifiés. Donc si je veux que mon ennemi soit lui faire du mal, il faut surtout qu'il ne soit pas puni pour qu'il continue à être dans l'erreur. Voilà. Et ça, évidemment, c'est pas ce qu'on veut. Si quelqu'un vous fait du mal, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de lui refaire du mal. Or non, Platon dit au contraire, là, si vous voulez lui faire du mal, laissez-le, c'est ça.
Laissez-le se perdre.
Voilà.
Ouais. Donc, par rapport donc, à sa première assertion, il montre, sur l'exemple précis, que quelqu'un qui n'a pas tout son bon sens, un fou, fait ce qui lui plaît et pour son mal. Et donc, il n'est pas puissant au sens où l'a défini Socrate, c'est-à-dire au sens où être puissant, c'est réaliser quelque chose qui est bon pour soi. Donc, finalement, Paulos rechange son point de vue, il revient finalement à son premier point de vue qui est celui de la considération, en disant « Oui, mais ceux qui peuvent faire ce qu'ils veulent, eh bien, ils sont, on les envie. » On les envie.
On envie ceux qui veulent, ceux qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Je dis l'expression moderne de nos jours de ça, c'est celui qui peut entrer dans un supermarché et prendre absolument tout ce qui lui plaît.
C'est ça, oui. Et donc, après discussion, donc Paulos finit par affiner son opinion en disant faire ce qu'il veut à condition qu'il ne soit pas puni, parce que pour Paulos, être puni, justement, c'est un mal. Mmh. C'est l'opinion commune. Et là, donc Socrate démontre le contraire, c'est-à-dire qu'il démontre la proposition suivante. Il vaut mieux subir l'injustice que la commettre, même si dans l'absolu ce serait mieux de ni subir ni commettre. Il le reconnaît quand même.
Ah, quand même.
Et ensuite, si on a commis une injustice, il vaut mieux être puni qu'échapper au châtiment. Et donc ça va faire l'objet de deux démonstrations. Dont je vais vous donner les grandes lignes. Donc, il fait admettre à Paulos que commettre la justice, c'est plus vilain que de la subir. Et alors il va dire, bien, le vilain, c'est le contraire du beau, et pour lui, le beau, c'est le bien, donc si c'est plus vilain de commettre l'injustice que de la subir, c'est donc mieux de subir l'injustice que de la commettre. Et pour lui, la démonstration est terminée. Alors, Paulos va dire, oui, mais pour moi, je ne suis pas d'accord que plus vilain, c'est aussi moins bon. C'est-à-dire qu'il ne veut pas accepter l'identité du bon et du beau. Et donc, Socrate va reprendre sa démonstration en prenant Paulos là où il en est, c'est-à-dire en constatant qu'il n'a pas admis, il n'a pas reconnu lui-même qu'il y avait une identité du beau et du bien. Alors, il dit, le bien, qu'est-ce que c'est ? Paulos admet que le beau, c'est soit utile ou plaisant. C'est utile ou plaisant. Donc on a un ou logique, c'est l'un ou l'autre ou les deux. Et donc, le vilain, qui est le contraire du beau. C'est donc le contraire de utile ou plaisant. Le contraire d'utile, c'est nuisible. Le contraire de plaisant, c'est douloureux, désagréable. Et le contraire de l'un ou l'autre, c'est ni l'un ni l'autre. Donc c'est le contraire de l'un et le contraire de l'autre. Et donc, le vilain, c'est quelque chose qui est nuisible et déplaisant, les deux à la fois. Donc c'est-à-dire de douloureux et de mauvais. Alors maintenant, on va faire une relation d'ordre pour comparer, puisqu'il s'agit de démontrer si l'un est plus que l'autre ou moins que l'autre, hein, s'il est pire de subir injustice ou de la commettre. Alors, si quelque chose est plus beau que B, donc si A est plus beau que B, ça donne que A donne plus de plaisir ou est plus utile que B. Donc, à l'inverse, si A est plus laid que B, il est plus douloureux ou plus mauvais. Et donc, commettre l'injustice, ça n'est pas plus douloureux que de la subir. Au contraire, c'est ce que dit Paulos. Et donc, si c'est pas plus douloureux, c'est nécessairement plus mauvais. Fin de la démonstration.
Bon, c'est QFD.
C'est QFD, voilà.
Alors, Nicolas, si on avait deux ou trois auditeurs dans l'émission, je crois qu'on les a perdus. ils ont dû penser qu'on était dans une émission de mathématiques.
Eh oui, c'est ça. Pour détendre la situation, j'ai fait une blague. Oui. Vous connaissez deux logiciens. Il y en a un qui devient père de famille. Et l'autre demande, alors fille ou garçon? Il répond oui.
Oui, alors ça signifie, parce que le ou est un ou qui n'est pas exclusif.
Absolument,
en logique.
Oui.
Voilà.
Donc, il est soit fille, soit garçon.
Oui.
Et donc, l'un ou l'autre est vrai.
Et l'un ou l'autre est vrai, voilà. Mais c'est drôle parce que nous appelons ici les neveux de René. Je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu viens de dire, Nicolas. C'est qu'en dépit de la difficulté que nous avons à te suivre en t'écoutant et la difficulté qu'on a à lire, y compris, on avait vu avec notre amie Cécile Delobel qui était professeure de philosophie, qui disait qu'elle avait besoin elle aussi de faire un tableau pour suivre ses démonstrations du Gorgias. C'est quand même quelque chose de ça qui va passer dans la suite de la philosophie. Après Platon, Aristote va formaliser les règles du langage et ça va être quelque chose qui va être très important. Évidemment, toute la philosophie scolastique antéchrétienne, antère d'islam, elle va aussi continuer à ça pour les raisonnements. Et puis, on l'a dit, c'est avec Descartes que tout ça va renaître de façon fulgurante. Donc, finalement, cette histoire de démonstration de commettre l'injustice, c'est pire que la subir, personne n'y croit. Je crois qu'on serait incapable ici, autour de la table, de la redire de mémoire, ou alors il faudrait l'apprendre par cœur.
J'invite d'ailleurs les lecteurs à le lire eux-mêmes. Hein. C'est important que les gens voient justement, essaient de suivre le raisonnement qui est fait dans le dialogue pour arriver à ces conclusions-là. Voilà.
Hein. Je peux le répéter.
Non.
En plus rapide. C'est plus beau, c'est plus utile ou plus agréable. Donc plus laid, c'est plus nuisible, plus mauvais ou plus douloureux. Et comme c'est pas plus douloureux de subir injustice, c'est donc plus mauvais.
Donc, chers auditrices et chers auditeurs, ayez toujours un Nicolas Lemoine à côté de vous lorsque vous lisez Platon. Alors, juste pour terminer cette émission, on voudrait revenir à cette question que, en dépit de ces difficultés de raisonnement, de ces paradoxes, de quelque chose qui heurte l'opinion, Socrate aime la philosophie et il dit « c'est ma seule bien-aimée, je crois ». Nous donnons rendez-vous à nos auditeurs et à nos auditrices la semaine prochaine et nous proposons de lire l'extrait où Calliclès prend la parole dans le dialogue Le Gorgias. Merci, à la semaine prochaine.